Il est quasiment midi sur l'antenne du 89.5 de Duo, 17h si vous attrapez la rediffusion, voire 21h le dimanche soir. Et oui, on garde les mêmes créneaux, même horaires pour cette émission mensuelle que l'on retrouve sur l'antenne du 89.5 de Duo, émission réalisée en étroite collaboration et partenariat, même il faut le dire, avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Cela fait plusieurs saisons que cette émission, ce programme est installé dans la grille et sur l'antenne du 89.5 de Duo, saison et partenariat renouvelé qui s'ouvre aujourd'hui, en ce jeudi 14 novembre 2013. Rentrée tardive, mais la saison s'ouvre néanmoins pour le GREMOS pour toute la saison à venir. Un jeudi par mois, c'était habituellement le premier jeudi de chaque mois. La fréquence risque peut-être d'être modifiée, mais on aura l'occasion de vous donner toutes les informations relatives, bien sûr, à la réalisation et diffusion de ce programme. Les membres du GREMOS, ils sont quatre ici en studio et en régie, sont bel et bien présents au micro avec nous sur l'antenne. Bonjour à vous.
Bonjour Lionel.
Jean-Paul, Maurice et Jean-Michel de l'association GREMOS qui va réaliser cette émission autour d'une thématique. C'est aussi un peu la règle du jeu de ce programme. C'est souvent une thématique associée à l'émission et ce sera là une journée particulière qui va marquer la fin de ce mois de novembre. Le 29 novembre prochain se tiendra sur Saint-Étienne une journée d'études consacrée aux luttes ouvrières, bien entendu, dans le bassin stéphanois, et c'est tout ce dont il va être question aujourd'hui dans ce programme. Alors juste dans un premier temps, j'aimerais tout de même que l'on profite de l'occasion aussi pour faire un petit rappel, piqûre de rappel, sur ce qu'est le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois.
Et oui, Lionel, derrière le mot GREMOS se cache beaucoup de choses et sans doute s'enrichira au fur des années, au fur et à mesure des années. Le GREMOS a été créé en 2007, donc il est maintenant en âge de pouvoir regarder derrière lui. Il est composé d'étudiants, il est composé d'enseignants qui appartiennent à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui appartiennent soit au centre Max Weber, soit à ISM, et qui se réunissent pour, comme le nom l'indique, réaliser des recherches. Rappelons, le terme de GREMOS signifie groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Recherche qui nous amène à essayer de sauvegarder les archives privées, de constituer des bases de données et puis même de rassembler des archives orales qui sont très éphémères mais excessivement précieuses. Si on regarde un petit peu derrière nous, eh bien, depuis 2007-2008, le GREMOS a mis en place une exposition qui était centrée autour de la grève des mineurs de 1948. Il a chapeauté un certain nombre d'ouvrages, dont un ouvrage toujours sur la grève des mineurs de 1948. Et puis, il dispose d'un site. Alors, nous le signalons très fortement. Pour attraper ce site, il faut taper sur l'ordinateur www.gremos.l'autre.net, sur lequel on voit se décliner un certain nombre d'activités tout à fait impressionnantes. Et puis, cette année, l'objectif, c'est la réalisation d'une journée d'études qui reprend une tradition, puisque la première journée d'études avait eu lieu en octobre 2008. Elle avait eu lieu à la Bourse du Travail. Et puis aujourd'hui, ce mois, au mois de novembre, la deuxième journée d'études qui aura lieu le vendredi 29 novembre. Eh bien, commençons par des chansons, parce que les chansons, elles seules, sont une manière de nous faire entrer dans une militance qui est celle qui va être la nôtre, qui va être déclinée au cours de cette journée d'études.
Pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle imite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style.
La misère écrasant son mégot sur mon cœur a laissé dans mon sang la trace indélébile. qui a le même son et la même couleur que la suie des crassiers du charbon inutile.
Les forges de mes tempes pilonnaient les mots. J'ai limé de mes mains le creux des évidences. Les mots calaminés crachent des hauts fourneaux. Mes yeux d'acier trempés inventent le silence.
Je me saoule à New York et me bats à Paris. Je balance à Rio et ris à Montréal. Et c'est quand même ici que pousse ça, tout petit, cette fleur de grisou à tige de métal. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville
où la rue artérielle imite le décor.
Cheminée d'usine ulule à la mort.
La lampe du gardien rigole de mon style.
Captation live et concert pour cette première illustration sonore et musicale avec deux Stéphanois ici en live. Mickaël Furnon, plus connu via son projet Mickey 3D, Mickey tout seul, qui accompagnait, ou inversement, plutôt Bernard Lavillier qui est à la guitare aussi sur ce morceau et son titre, en tout cas célèbre ici bien sûr, Saint-Étienne.
Alors ça nous semblait une très bonne chanson pour commencer cette émission parce que c'est une chanson qui parle du Saint-Étienne de la première, du développement de la première révolution industrielle. Et on va parler un peu des difficultés de cette industrie stéphanoise, bien entendu, dans cette journée. Donc,
Alors rappelons-le, la journée aura lieu le vendredi 29 novembre 2013 dans les locaux de l'Université Jean Monnet. Et le titre porte sur les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois pendant deux décennies, entre les années 1963 et 1984, avec un soin tout particulier pour penser et agir face à la crise dans les années 1968. Alors Jean-Michel, penser et agir face à la crise dans les années 1968, c'est quelque chose qui est une palette importante de cette partie du XXe siècle pour Saint-Étienne.
Oui, tout à fait. D'abord, je crois qu'il faut bien signaler que cette chanson de Lavillier, elle m'interpelle parce que finalement Lavillier n'est pas si âgé que ça et il nous parle de son enfance, d'un décor qui est presque encore un décor du XIXe siècle dans les années 60. Et penser et agir face à la crise dans les années 68, c'est bien l'idée que quelque part, la crise a commencé bien plus tôt qu'on ne le dit à Saint-Étienne. Donc en général, on parle d'une crise à partir de 73. C'est les traces des manifestations, des signes, par exemple en 1964, la fermeture de la Société des Forges et Ateliers du Creusot, ex-chalet à Sierre. C'est le début assez significatif du recul de l'exploitation charbonnière. C'est la crise du textile. Bref, il y a une multiplication de signes annonciateurs graves, voire gravissimes, qui se traduisent par des réactions logiques hein, d'ouvriers qui n'acceptent pas le chômage, qui n'acceptent pas cette fatalité qu'on semble leur présenter. Et en même temps, c'est aussi une mobilisation, je crois, c'est un petit peu ce qu'on pourra montrer à travers cette journée, une mobilisation de l'ensemble des acteurs avec des points de vue différents, des solutions différentes. Je crois que du patronat jusqu'aux salariés, des syndicats jusqu'aux élus, il y a une réflexion permanente, des tentatives de trouver des solutions face à ce qui apparaît bien comme une véritable crise structurelle du bassin stéphanois. Donc penser, oui, et agir aussi. L'action et la pensée venant en même temps dans le découpage chronologique. Je pense qu'on peut tout de suite signaler qu'on On doit beaucoup dans ce découpage chronologique aux réflexions et aux travaux de deux des intervenants que nous avons invités, à savoir Xavier Vignat d'une part, et d'autre part Michel Zancarini-Fournel, qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les années 68, et non pas l'année 68.
Cette journée d'études, le Grémos la prépare depuis pratiquement un an. Elle n'est pas toute seule, ce groupe du Grémos n'est pas tout seul, il s'est entouré d'un certain nombre de partenaires. Jean-Paul ?
Oui, alors les partenaires pour cette journée, c'est d'abord le centre Max Weber, donc héritier, on va dire l'héritier d'une longue tradition, et héritier en particulier d'un organisme qui existait dans les années 60 qui s'appelait le CRESAL, le Centre de Recherche et d'Études Sociologiques appliquées à la Loire.
Qui est d'ailleurs, en dehors de l'École des Mines, un des premiers centres de recherche d'enseignement supérieur dans la région.
D'accord. Alors, autre partenaire, ISM. ISM, c'est... alors, je n'ai pas l'acronyme en tête. Institut des sciences...
Il y a société, territoire, homme.
Très bien.
C'est un acronyme un peu compliqué.
Mémoire environnement.
Voilà. En gros, histoire, géographie...
Oui, patrimoine aussi.
Patrimoine. Voilà. Ensuite, eh ben, il y a nos hôtes aujourd'hui de Radio Dio qui sont partenaires de cette journée. Et puis, nous avons voulu aussi associer à cette journée deux autres organismes qui se soucient de la mémoire du mouvement ouvrier à Saint-Étienne, c'est-à-dire l'Institut d'histoire sociale de la CGT, donc qui sera représenté en particulier par Pierre Gallon, nous y reviendrons, et puis aussi le CEDMO, Centre d'études et documentation du mouvement ouvrier, CEDMO 42, dans la Loire, et qui sera représenté par son président Daniel Durand.
Cette journée, Jean-Michel, représente un investissement important.
Oui, un investissement important, et on doit signaler aussi quand même qu'elle est possible grâce à l'aide de la subvention que nous a accordée la ville de Saint-Étienne l'an dernier. Je voudrais simplement ajouter que IHS et CEDMO nous permettent de dire que dans cette journée, nous avons essayé de mêler à la fois des chercheurs et des militants. Des témoins aussi, parce que plusieurs des personnes qui interviennent ont été des témoins et des acteurs des luttes des années 60-70 en tout cas. Donc c'est un côté un petit peu original que nous à cette journée.
Oui, alors pour moi qui travaille sur l'histoire de l'UD de CFDT, et je pense aussi pour Alban Graziotin qui fait une thèse actuellement sur les ouvriers stéphanois, qui est en train de préparer une thèse sur les ouvriers stéphanois, on avait aussi l'idée d'inviter un certain nombre de gens qu'on avait rencontrés. C'est une façon de... Comme on met assez longtemps à avancer vers la réalisation de nos thèses, c'est une façon de rendre compte du travail qu'on a déjà effectué. Et puis peut-être c'est aussi une autre façon que pour ces personnes de nous reposer des questions ou de nous faire des observations par rapport à ce qu'on peut dire maintenant. Mais cette idée de faire venir des acteurs, oui, me semble particulièrement intéressante.
Alors il faut ajouter que la veille de cette journée, et c'est le dernier des partenaires qui nous intéresse, savoir l'Institut du Travail. Donc l'Institut du Travail qui est animé par Serge Proust, maître de conférence et associé au centre Max Weber, présente une conférence qui sera donnée par Xavier Vignat à 18h à l'amphi E01. Donc c'est sur la rue, à l'angle de la rue Richard et de la rue... de la Grand-Rue, et Xavier Vignat va parler des années 68 et de son livre sur l'insubordination dans les années 68. Donc Jean-Paul, toi qui le connais bien, tu peux en dire quelques mots.
Bien, alors Xavier Vignat, c'est un jeune historien originaire de Saint-Étienne et qui a fait une thèse sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, alors qui doit dater de 2006, si je ne me trompe pas. Et je me souviens qu'avec Alban Graziotin, puisque nous travaillons ensemble, nous avons découvert le livre qui est sorti de cette thèse J'ai envie de dire que c'est en 2011, c'est-à-dire que je dirais que cette journée, elle se prépare depuis un peu plus qu'un an. Et c'est à ce moment-là, après avoir lu ce livre tous les deux, qu'on a proposé au Grémos de faire un projet de colloque qui est devenu cette journée d'études, mais peut-être qu'il se prolongera. Voilà. Alors, deux mots. Xavier Vignat montre que dans cette période, effectivement, il y a une attitude différente d'une partie, on va dire, de la classe ouvrière, une attitude qu'il appelle une attitude d'insubordination face à la situation du travail, face aux cadences de travail, face au chômage, face aux accidents du travail, face aussi également au syndicat. Voilà. Et alors, je reviens sur une autre expression qu'il emploie, c'est les années 68. Donc, il y a un courant historiographique qui est depuis quelques années, auquel d'ailleurs a participé aussi quelqu'un dont on va reparler, qui est Michel Zancarini-Fournel, qui insiste sur le fait que 68, il y a eu un mouvement bien sûr, qui est le mouvement de mai-juin 1968, mais qu'il y a des années 68 qui sont plus larges, qu'on peut situer à partir de 65. Alors, ils ne sont pas tous forcément d'accord, mais Xavier Vignat, dans son livre, situe ce mouvement jusqu'en 1979, jusqu'à la, un petit peu, on va dire, la fin de la sidérurgie lorraine. Voilà.
Michel Zancarini va jusqu'à 81.
Michel Zancarini va jusqu'en 81.
Le bain, c'est fini. Maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodiabeta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci, Paune Roulinck, trust de la chimie. Premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur quatre toute l'année, à la Rodiabeta. Merci, Saune Roulinck, trust de la chimie. T'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon, Vaise, gorge de loup, belle étoile Saint-Fond, péage de Roussillon. Mais derrière les hauts murs de la Rodiabeta, dans des locaux fermés, éclairé au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron. On travaille en flux continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent.
Bien, alors pour un 68ard, dont un ancien 68ard dont je suis, Colette Mani, c'est quelqu'un d'incontournable. Et cette chanson, je la trouve très, très, très belle. Donc, il y a eu des grèves très dures à la Rodiabeta en 1967. Et il y avait eu de l'insubordination ouvrière, effectivement, par rapport aux syndicats à l'occasion de ces grèves. Et Colette Mani était venue enquêter, discuter avec les ouvriers et les ouvrières de la Rodia Seta. Et elle a fait cette magnifique chanson.
Nous sommes ensemble avec Jean-Paul Benthière et Jean-Michel Stenner, membres du Grémos, qui nous présentent la journée d'études du 29 novembre 2013, qui aura lieu à l'Université Jean Monnet, dans la salle SR2. Alors, Jean-Michel, la matinée est plutôt dévolue à la présentation des luttes ouvrières, des syndicats dans le bassin stéphanois.
Oui, on a découpé effectivement la journée en deux parties, matin et après-midi. Et donc, le matin, on l'a intitulé « Lutte ouvrière et syndicats dans le bassin stéphanois ».
Alors, un très grand nombre d'interventions. On se demande comment vous allez arriver à faire concilier le nombre de personnes qui vont prendre la parole.
Il va falloir de la discipline.
Beaucoup.
C'est une valeur majeure des années 68. Alors d'abord, on va commencer par un propos de Xavier Vignat sur les années 68, donc qui nous recadrera justement un certain nombre de choses comme Jean-Paul a commencé à les présenter sur le cadre chronologique, sur les caractéristiques. Alors ensuite, on va donner la parole à Alban Graziotin, qui est un des membres fondateurs du Grémos, étudiant, doctorant. Alors Alban a fait toutes ses études à Saint-Étienne et il a consacré ses recherches aux mouvements sociaux dans le bassin stéphanois. Il avait commencé par une maîtrise sur les mondes ouvriers, grèves et luttes sociales dans le bassin stéphanois pendant la Première Guerre mondiale. Et donc il s'est lancé sur une thèse sur la période des années 63-85. Et récemment, donc, il a participé à un séminaire dans le cadre de l'IEP sur étudier les grèves, sources et échelles d'analyse.
Voilà. Alors qu'Alban envisage les luttes ouvrières sous l'angle de la CGT, Jean-Paul Benthière, lui, se spécialise plutôt dans une présentation.
Oui, je vais faire une petite rectification.
Oui,
parce que depuis 3 ans, j'ai pas mal travaillé avec Alban et beaucoup discuté avec lui. Oui. Non, le problème d'Alban, c'est d'essayer d'écrire quelque chose sur le monde ouvrier stéphanois.
À l'échelle des usines.
À l'échelle des usines. Mmh. Et alors, bien entendu, il s'intéresse à la CGT, puisque la CGT est le principal syndicat, le syndicat de loin le plus implanté, le plus fort. Mais en fait, le problème d'Alban, c'est le monde ouvrier, et avec l'idée qu'il faut faire une distinction, alors je ne sais pas exactement comment il le fera dans sa thèse, mais avec une idée forte qu'il faut faire une distinction entre le monde ouvrier stéphanois et le mouvement ouvrier stéphanois. Et travailler justement sur ces liens entre le monde ouvrier stéphanois et le mouvement ouvrier stéphanois. Et alors, effectivement, je suis dans une perspective différente, puisque moi, j'ai choisi de travailler sur l'union départementale CFDT de la Loire. Voilà. D'essayer de... En gros, l'idée, c'est de comprendre comment une organisation se transforme et qu'est-ce que ça entraîne qu'est-ce que ça entraîne quand une organisation comme la Confédération CFDT se transforme, qu'est-ce que ça entraîne à l'intérieur d'une union départementale, et qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de cette étude de l'union départementale de la Loire pour comprendre la transformation de la CFDT aussi.
Et oui, d'autant plus que la CFDT, enfin la CFTC Loire a été une UD originale, puisque dès 1947, elle fait partie de la minorité de la CFTC qui va se battre contre la confessionnalisation, pour la transformation en un syndicat, on va dire, de classe, qui défend le socialisme à base autogestionnaire. Et ensuite, elle va participer dans les années 74-75 aux assises du socialisme. Bon, c'est quand même un acteur très important à l'échelle nationale, et la fédération, l'Union départementale Loire, a été un des moteurs de cette transformation de la CFTC.
Ouais, tout
alors, à fait. On le signalait tout à l'heure, l'originalité de cette journée, c'est de donner la parole à des universitaires, mais aussi à des gens de terrain, à des syndicalistes.
Voilà, donc le troisième intervenant, c'est Pierre Gallon, qui interviendra peut-être en contrepoint de ce que va nous dire Jean-Paul sur l'UDCGT face à la crise du bassin stéphanois. Et Pierre Gallon, donc, a été technicien supérieur dans la sidérurgie. Il a été militant de la JOC, de la CFTC, de la CGT. Donc, bon exemple des évolutions que connaissent certains des militants de notre région à cette époque-là. Militant du PSU, puis du PCF. Donc, il a bien connu la période couverte par notre sujet. Et d'autre part, c'est un membre actif de l'Institut CGT.
D'histoire sociale,
CGT de Benoît Frachon de Saint-Étienne, et il écrit régulièrement des articles sur l'histoire du mouvement ouvrier local.
Alors tout à l'heure nous parlions de Michel Zancarini-Fournel qui a récemment apporté une contribution importante sur cette période.
Et oui, plusieurs même. Michel Zancarini-Fournel, c'est j'allais dire la personne la plus comment dirais-je, pas qualifiée, si certainement la plus qualifiée, mais aussi la plus solide sur cette question. C'est une historienne d'origine stéphanoise. Elle a enseigné plusieurs années dans la région, d'abord, avant de devenir maître de conférence, puis professeur à l'université de Lyon 2. Elle a fait une thèse sur les femmes dans la région stéphanoise, parcours de femmes, réalité et représentation sur la période 1880-1950. Et donc, depuis une vingtaine d'années, elle a beaucoup travaillé sur les années 68. Elle a publié deux livres qui nous intéressent. Le premier, en collaboration avec Philippe Artière, 68, une histoire collective. Alors, il nous intéresse parce que c'est un livre qui ouvre complètement cette notion de année 68, en l'ouvrant dans une séquence d'abord historique très longue, qui va de 63 jusqu'à 80-81, et ensuite en l'ouvrant à l'échelle mondiale, en montrant, on y mêle les histoires post-coloniales, les mouvements des Noirs aux États-Unis, la révolution iranienne en 1979. Bref, c'est quand même un livre qui a énormément marqué l'historiographie de cette année 68. Et puis, il a aussi publié toute seule, toujours en 2008, Le moment 68, une histoire contestée, qui est une sorte de synthèse de historiographique, mais pas seulement sur l'histoire de 68. C'est une réflexion sur comment s'est écrit l'histoire de 68 depuis 68.
Alors l'autre particularité de cette journée sera de permettre au public, et on espère que ce public sera nombreux, d'entrer en discussion, d'entrer en débat avec les intervenants.
Oui. Et donc, comme intervenant le matin, nous avons invité un professeur de l'université de Rennes, Gilles Richard, dont on peut se demander qu'est-ce qu'il vient faire ici. Eh bien, il faut d'abord savoir que Gilles Richard est un grand spécialiste de l'histoire des droites. C'est un des héritiers de René Raymond et qu'il a fait une thèse sur le CNIP, donc Centre National des Indépendants et Paysans, qui était le parti d'Antoine Pinay. Et donc il connaît bien notre région, il connaît bien cette région, et il a lui aussi publié un livre sur les années 68, les partis à l'épreuve de 68, hein, l'émergence de nouveaux clivages 71-74. Et d'autre part, bah, il a dirigé deux thèses sur notre région, la mienne d'abord et puis celle de Jean-Paul qui est en cours.
En cours, oui. Voilà. Je peux rajouter un mot à propos d'un ouvrage de Michel Zancarini qui déborde la période, mais qu'on ne peut que recommander à tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du temps présent. C'est « La France du temps présent, ouais. 1944-2004 », qui est un livre extrêmement riche. Et...
Alors, puisque Jean-Paul parle d'ouvrage, eh bien, signalons qu'au cours de cette journée, il y aura un libraire stéphanois qui aura la possibilité de vous faire voir, de vous faire toucher, de vous permettre de feuilleter un certain nombre d'ouvrages. C'est la librairie L'une et l'autre.
Qui est aussi donc un partenaire de notre journée.
Eh bien, on va poursuivre cette émission avec une peut-être respiration musicale sur Duo 89.5, émission mensuelle avec le Grémos, on vous le rappelle, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois qui organise ou qu'organise cette journée d'études le vendredi 29 novembre prochain. Les esprits chauffent, mais on rappelle aussi que les ouvriers, ce sont les mains d'or notamment. Alors on revient à Bernard Lavilliers et à Saint-Étienne avec ce fameux titre choisi, sélectionné par notre équipe ici en place.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler, je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore.
Alors,
travailler encore.
On a eu.
Doucement, Jean-Paul, laissons Bernard terminer tranquillement cette chanson. Les mains d'or. Voilà, en effet, je ne sais pas s'il travaille encore beaucoup, Bernard Lavillier, ou s'il reviendrait beaucoup à la sidérurgie, l'industrie. Enfin, apparemment, c'est une expérience aussi de sa vie personnelle. Je ne sais pas s'il a énormément. Énormément travaillé à ce point, mais en tout cas voilà, il le témoigne, il le chante ici dans cette très belle chanson Les Mains d'Or de Bernard Lavillier que vous avez sélectionné, je le rappelle. Alors, petit problème aussi technique, la chanson a tendance à sauter ici, nous n'avons pas le disque original de Bernard Lavillier pour ce titre là, du coup on l'a attrapé comme ça aussi via la connexion net qui a peut-être voilà, par la ligne amené à cette petite instabilité, ces petits accros. Bref, le Grémos est toujours là en studio. Jean-Paul, oui, tu allais prendre la parole pour assurer donc la transition pour cette émission spéciale.
Alors, deux mots sur cette magnifique chanson de Bernard Lavillier. Peut-être, pour faire le lien avec ce dont on va parler dans cette journée, je voudrais dire que Bernard Lavillier est allé porter cette chanson au sidérurgiste de Florange au moment où, en fait, les hauts fourneaux se sont arrêtés, comme ils se sont arrêtés chez nous, avec quelques ateliers qui sont restés, qui sont passés à ArcelorMittal. Voilà. Donc, peut-être Maurice va reprendre maintenant.
Alors, nous savons tout de la matinée, qui est placée sous la présidence de Serge Proust, du Centre Max Weber. L'après-midi, elle est placée sous la présidence de Brigitte Carrier-Reynaud, de ISM. Et cet après-midi est davantage centrée autour des hommes et des territoires à l'épreuve de la crise. Et nous commençons la réflexion de l'après-midi avec Jean-Michel, qui écrit beaucoup en ce moment, qui a beaucoup écrit précédemment avec la thèse qu'il a proposée, Jean-Michel, sur le Parti communiste dans la région stéphanoise.
Oui, Parti communiste dans la région stéphanoise, 44-58, avec un sous-titre « Communisme et anticommunisme dans une grande région ouvrière ».
Et en ce moment, Jean-Michel travaille beaucoup sur les maires MAIRES de Saint-Étienne, ce qui le rend tout à fait capable de dominer cette question de la crise du bassin et des campagnes municipales qui ont lieu entre 65 et 83.
Exactement, c'est-à-dire je prépare avec Gérard Thermault un ouvrage, enfin on achève un ouvrage sur les maires de Saint-Étienne de la Révolution jusqu'à nos jours. Et donc là je vais intervenir sur la question de la crise économique dans le débat municipal des campagnes municipales, dans quelle mesure a-t-il pesé, dans quelle mesure est-il intervenu sur quatre
mandats,
65, 71, 77 et 83. Ouais. Donc voilà, mandat où effectivement les mauvaises nouvelles se sont accumulées, notamment dans les années 70.
Très bien.
Alors, oui, tu disais que Brigitte Carrier-Reynaud allait présider. Il faut rappeler quand même que Brigitte qui travaille à ISM, a fait une thèse sur l'industrie rubanière, donc elle connaît aussi bien la question, puisque sa thèse s'achève dans les années 60. Elle connaît bien le problème de cette crise qui vient de très loin dans le bassin stéphanois. Donc je crois qu'elle est tout à fait la bonne personne pour animer cet après-midi. Une après-midi qui va porter plus effectivement sur la réflexion des décideurs politiques politique essentiellement, soit à l'intérieur des partis, soit à l'intérieur des institutions municipales, avec une réflexion sur aussi la transformation que la crise a entraînée à l'échelle des territoires. D'où le titre « À l'épreuve de la crise, les hommes et les territoires ».
Et là, l'intervention de Georges Guay, qui est prévue, voilà, va plus particulièrement analyser les mutations des espaces.
Tout à fait. Donc Georges Guay, professeur de géographie à l'Université de Saint-Étienne, et auteur d'une thèse importante, Structuration de l'espace et dynamique sociale, recherche sur l'exemple d'une vieille région industrielle. Donc c'est en plein dans notre souci. Bon, il a travaillé sur la vallée du Gier, mais il connaît très bien la région stéphanoise, et il a publié de nombreux articles depuis, soit tout seul, soit avec André Vent, soit avec d'autres étudiants, et des articles qu'il amène progressivement sur la question du patrimoine industriel. Donc il a publié notamment en 2011, il a participé à un colloque « Que reste-t-il de l'argument patrimonial dans les espaces industriels reconvertis ? Trois sites de l'agglomération stéphanoise, 25 ans après, Gilet, Giron, Manufrance. » Voilà, c'est une réflexion sur à la fois les choix du patronat, les choix des élus, et puis ce que ces territoires sont devenus depuis.
Alors de cette période restent des figures majeures, et vous en avez choisi une, c'est celle d'André Garnier, oui, homme syndical et homme politique.
Oui. Alors André Garnier, effectivement, c'est un militant de la CFTC. C'est un militant de la CFTC qui joue un rôle très important dans l'UDC-FTC de la Loire en tant que représentant de la minorité qui veut
reconstruction,
la minorité qui veut transformer la CFTC. Je dirais un mot sur lui au congrès 56 de l'UDC-FTC. Il va abandonner ses fonctions à la CFTC quand il va participer à partir de 1960 à la direction nationale du PSU. Donc il est à la direction nationale du PSU. À cette époque-là aussi, il participe activement à la lutte contre la guerre d'Algérie. Il est aussi militant de quartier. Dans les années, à partir de 1974, il fera partie du courant qu'on appelle le courant des assises du socialisme, qui verra un certain nombre de militants du PSU et de la CFDT passer au Parti socialiste. Et donc André Garnier passera au Parti socialiste avec les dirigeants de l'UDC-FDT de l'époque, c'est-à-dire Pierre Héritier et Roger Bonnevia.
Et André Garnier a été membre de la municipalité de Jean-Joseph Sangdols entre 77 et 83. Et alors pour nous parler d'André Garnier, nous avons fait venir Jean-Paul Martin, professeur d'histoire à l'université de Lille 3, qui est un spécialiste de la laïcité, puisqu'il a fait une thèse sur la Ligue de l'enseignement de la République et la République pardon, des origines à 1914. Alors, ça peut paraître loin, mais en fait, Jean-Paul Martin, d'abord, c'est aussi un natif de la région, comme Michel Zancarini-Fournel. Il a consacré sa maîtrise d'histoire au syndicalisme révolutionnaire chez les métallurgistes de Londres, 1906-1914. Et il s'est toujours intéressé à ce qui se passait dans la région. Et notamment, il collabore régulièrement au Métron pour les notices des militants chrétiens et PSU des années 45-68, dont celle de Pierre Gallon.
Et parmi cet après-midi, nous aurons le concours d'Antoine Vernet, qui est un jeune doctorant, qui est avec nous là maintenant et qui va nous présenter le sujet de son propos là.
Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement, en tant que membre du Grémos et doctorant en histoire contemporaine, j'ai été gentiment invité par mes camarades à intervenir au cours de cette journée. Donc personnellement, je travaille sur la question de la place de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans l'évolution économique de la région stéphanoise. Donc personnellement, je m'intéresse plus à la question de la métallurgie et de la mécanique, mais dans le cadre de cette journée, je vais quand même élargir un petit peu plus. Donc mon intervention sera intitulée « Du développement économique à la lutte pour l'emploi, la formation en région stéphanoise de 1964 à 1982 ». Donc en fait, l'idée que je développe un peu dans ma thèse, c'est de montrer que la formation finalement n'est qu'un miroir déformant de la production. Et ce qui m'intéresse plus personnellement, c'est l'implication des dirigeants d'entreprise. Mais effectivement, il y a quand même une très grande résonance au niveau des syndicats ouvriers notamment. Donc, à travers cette étude, c'est de montrer qu'à partir des années 50, mais surtout des années 60, on assiste à un renouvellement, à une recomposition assez importante du système de formation dans la région stéphanoise, avec un développement de la formation continue, de l'enseignement supérieur. Et cette recomposition, elle se fait aussi devant le constat de la nécessité de redévelopper, de revitaliser la région stéphanoise avec des vieilles industries qu'on sent déjà à cette époque en bout de course. Et donc l'idée de certains patrons, pas tous, il faut bien le dire, et des syndicats qui sont associés à cette réflexion, c'est de trouver de nouvelles formations, de nouvelles compétences qui permettront justement de remédier à cette situation de crise qui est une réalité intériorisée par les acteurs du bassin stéphanois depuis au moins la décennie 1950. Donc de cette manière, ça fait vraiment écho à toutes ces réflexions sur la crise. Et donc je vais essayer d'apporter ce petit point de vue en plus sur toutes ces réflexions, toutes ces mobilisations des acteurs, et notamment donc des acteurs ouvriers en région stéphanoise.
Et dans toute cette période, le CRESAL a joué, on en parlait tout à l'heure, un rôle extrêmement important, à la fois un rôle de diagnostic et à la fois un rôle d'incitation. Jacques Yon, qui était un des membres du CRESAL, a bien voulu revenir sur cette période d'études.
Voilà, alors le CRESAL a publié donc des études, travaillé pour le Conseil général de la Loire à une époque, et a publié un certain nombre d'études sur l'évolution industrielle. Je rajoute un mot sur Jacques Yon, parce qu'il développera le CRESAL. Jacques Yon appartenait à la CFDT et a tenu un rôle dans la commission de formation régionale de la CFDT pendant les années, des années qui vont de 1974 à 1980. Voilà.
Et toute sa production récente tourne sur la question de l'avenir du travail social et de l'avenir des militants aussi.
C'est ça.
Depuis une dizaine d'années, il a publié, donc, notamment en 97, un ouvrage qui a fait pas mal de bruit à l'atelier, La fin des militants, point d'interrogation. Et en 2005, Militer aujourd'hui, c'est publié chez Autrement.
Et en 2012,
S'engager dans une société d'individus.
Voilà.
Tout à fait. Et il ne faut pas oublier Daniel Durand.
Daniel
Durand, qui est donc instituteur retraité, membre de la Fédération de la Loire du PCF dans les années 60-70, qui a joué un rôle actif dans les efforts de publication du parti à cette époque. Certains se souviennent peut-être d'un projet qui a vu le jour pendant quelques mois d'un quotidien du parti qui s'appelait Le Point du Jour. Et Daniel Durand est fondateur du CEDMO, donc il va nous présenter la politique, les réflexions aussi, parce que notre point de vue, c'est quand même de voir comment les partis politiques ont pu réfléchir, faire être des forces de proposition. Donc la réflexion du Parti communiste sur la crise dans les années 60-70, au-delà des engagements partisans.
Voilà, ce sera le dernier intervenant de cette journée qui se bouclera en fin d'après-midi, la clôture étant prévue à 17h30, avant bien entendu un temps aussi de conclusion, de synthèse et de perspective. On fera un petit rappel et des informations aussi pratiques de cette journée après cette nouvelle pause et dernière pause musicale, Colette Mani à Saint-Nazaire.
Sur le port à Saint-Nazaire, tendu filet de grève, dressé piquet de grève, le journal tombe à 5 heures, le journal tombe à 5 heures, à la une, sur la mer qui n'appartient à personne, à crever la cargaison du Torrey Canyon, des macareux à bec rouge, sanglu à Trébeurden, sur les chantiers à Saint-Nazaire, dressés des grues des hommes, tendus piquets de grève, défilent les femmes, les enfants, défilent les femmes, les enfants, dans la ville, sur la côte de granit rose, tourne le vent, la marée noire, avec filets et bottes de paille, les riverains protègent leur baie, refoule les nappes poussé par le vent du nord-ouest, tourne le vent, la marée rouge, solidaire, les mensuels, les horaires, nos yeux, nos mains, on les donnera pas pour rien, au 58e jour. Saint-Nazaire, cordage, les militaires, barrage, les prolétaires, Cérès au mazout, la mer aux oiseaux, les machines aux hommes.
La mer aux oiseaux, les machines aux hommes, c'est 68 heures. Voilà. On va maintenant...
Colette Mani, Jean-Paul, tout de même, pour la présenter, qu'on a aussi entendu tout à l'heure avec la pieuvre.
Bien sûr. Donc, Colette Mani, cette magnifique chanteuse des années 68, qui a chanté, effectivement, les luttes ouvrières, et aussi le tiers-monde, et aussi la guerre du Vietnam, et aussi... voilà.
Mais... une grande voix qui est venue plusieurs fois à Saint-Étienne avant et après 68.
Voilà.
Oui, et puis très associée tout à l'heure via le titre La Pieuvre justement au groupe Medvedkin, qui avait aussi beaucoup suivi hein, donc ce groupe d'artistes cinéastes, aussi les mouvements ouvriers de l'époque, enfin les luttes ouvrières de l'époque.
Alors cette journée d'études est quand même, avouons-le, une journée extrêmement ambitieuse, parce que parler des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois sur 21 ans, c'est quelque chose d'absolument impressionnant, mais de nécessaire, parce que jamais nous n'avons eu l'occasion dans la région stéphanoise d'avoir la possibilité de mener cette réflexion.
Oui, je pense que c'est notre objectif, c'est de faire un premier bilan sur cette période à partir de la perspective qu'on a fixée, c'est-à-dire cette réflexion sur l'insubordination ouvrière et le cadre chronologique des années 68. C'est un bilan que l'on a voulu un peu infléchir, puisque notre réflexion, elle est partie aussi sur la notion de vieille région industrielle. Donc on essaye de réfléchir à savoir dans quelle mesure la spécificité du bassin stéphanois, son histoire, certaines obsolescences de son appareil productif ont pu peser à la fois sur la crise et sur les réactions à la crise. Donc ça, c'est tout un ensemble de choses qu'on espère vont mûrir pendant cette journée, avec cette idée aussi qu'on avait de l'étendre à d'autres bassins. Donc on avait dans un premier temps, je le rappelle, le projet de faire ensuite un colloque en 2014 où on aurait pu comparer des expériences galloises, belges notamment. Et bon, pour l'instant, c'est un petit peu suspendu, mais on espère qu'un jour on pourra le faire. Et puis bien sûr, des lacunes, puisque on a une ambition quand même globale, mais on ne peut pas non plus tout traiter et on ne peut pas non plus tout voir en quelques heures. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir un point de vue d'historien sur le rôle du patronat local, même si Antoine va nous donner des pistes à travers les réflexions sur l'enseignement professionnel. Je crois qu'il a des choses à nous dire. On aurait aimé aussi sans doute avoir plus de réflexions sur le rôle du conseil général, sur le rôle du préfet. Le préfet Paul Camus a joué un rôle important à la charnière des années 60 et 70. Bref, il y a plein de réflexions, mais bon, c'est aussi le charme du travail d'historien, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir fini.
On peut aussi dire que, par exemple, le FO ne sera pas représenté. Oui. On peut aussi dire que le PCF sera le seul parti qui interviendra, alors que le Parti Socialiste Unifié et le Parti Socialiste et des gens comme Bruno Vénin avec... ensuite, on joue un rôle dans cette histoire, mais... c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout placer dans une seule journée.
Pour le PSU, on va le voir à travers la figure d'André Garnier.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que le PS, bon, le PS, sans doute pas grand-chose à dire à l'époque, dans les années 60, mais il y a aussi, je suis désolé, mais il faudrait aussi parler de l'UNR, des indépendants, etc. Bon.
Pour finir, quelques repères pour ceux qui veulent nous rejoindre à cette journée d'études. Rappelons la date, le vendredi 29 novembre 2013. À l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, dans la salle SR2, qui est au rez-de-chaussée. N'ayez crainte, il y aura un balisage depuis les deux entrées de l'université pour trouver cette salle.
Un mot peut-être, il y aura un accueil entre 8h45 et 9h15.
Un accueil avec café, petit gâteau, mais bien entendu. Et puis, nous n'oublions pas que même les esprits ne sont pas les seuls à être nourris. Sur le coup de midi, nous aurons la possibilité d'aller manger.
Voilà. Sur le coup de midi, nous aurons la possibilité de manger au restaurant universitaire. Alors, il y a deux possibilités. Nous avons envoyé des bulletins d'inscription avec... donc, les gens qui auront renvoyé leur bulletin d'inscription et leur chèque, ainsi que les intervenants, bien sûr, pourront aller manger au restaurant universitaire. Et puis, dans une salle prévue enfin, à cet usage. Et puis, les personnes qui, pour X raisons, n'ont pas pu envoyer ce certificat et ce chèque à temps, pourront néanmoins manger comme les étudiants au restaurant universitaire site Tréfilerie.
Clôture à 17h30, sans oublier la veille, le jeudi 28 novembre, la conférence à 18h, l'insubordination ouvrière dans les années 1968 par Xavier Vignat, organisée par l'Institut du Travail.
Voilà, c'est à 18h, amphi E01. Juste une petite précision, vous parlez d'inscription possible. Donc auprès de qui faut-il s'adresser pour s'inscrire?
Pour
s'il y a encore possibilité.
Pour la conférence?
Pour la journée? Non, je parle de la journée d'études. Hein,
alors, on a donné l'adresse de Sophie que je n'ai pas en tête actuellement.
D'accord. Non, mais toujours possible d'écrire aux archives municipales. Grémos, archives municipales, voilà. De Saint-Étienne, 164 Cours Fauriel, 42 100.
D'accord. Ouais. Sinon, on rappelle quand même que cette journée d'études est aussi très ouverte au plus large public. Absolument. Non pas seulement aux acteurs, témoins, historiens, sociologues, géographes et autres qui vont intervenir, mais au large et grand public qui peuvent, j'imagine, aussi venir, puisqu'il s'agit aussi de pouvoir se libérer durant toute une journée, de venir peut-être en milieu d'après-midi ou début d'après-midi ou milieu de matinée pour les disponibilités des uns et des autres. Voilà, ça se passe donc à Saint-Étienne le vendredi 29 novembre. Merci à vous.
Merci.
Pour
Merci.
Cette émission spéciale. On aura l'occasion de vous retrouver bien sûr le mois prochain, comme le veut la règle sur cette saison à nouveau. Émission mensuelle, un jeudi par mois sur le 895 de Dio. Émission à retrouver ensuite sur le site du Grémos dédié avec les émissions en ligne et en téléchargement possible. On rappelle les www.gremos.l'autre.net. Et je me permets juste de faire une petite rubrique agenda. Très rapidement, on va déborder un petit peu, mais ce n'est pas grave. Pour quelques temps et rendez-vous, on va dire, attendus, qui me semble assez proche de la démarche du Grémos. Tout d'abord, un réalisateur, Gilles Perret, de la région Rhône-Alpes, qui a réalisé un film qui s'appelle « De mémoire d'ouvrier » sur les départements Savoie, Haute-Savoie, qui a aussi réalisé un film dont on a beaucoup parlé et qui sera à nouveau présenté et projeté. Ce sera très proche dans les dates, ce vendredi 15 novembre, à la Cinémathèque de Saint-Étienne à 20h, salle Robert Mazoyer à Tarentaise, le film « Walter, retour en résistance ». Film de Gilles Perret, en présence de Walter Basson, donc un résistant savoyard déporté à Dachau, ainsi que l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, et Rémi Pergou qui le représentera, qui organise chaque année ce rendez-vous résistant sur le plateau des Glières. Voilà, c'est ce 15 novembre donc à Tarentaise. Je rappelle que Gilles Perret vient de réaliser un nouveau film qui s'intitule Les Jours Heureux, qui revient sur le programme du CNR, du Centre National de la Résistance, qui est actuellement sur les écrans ici et là, et qui surtout va rejoindre les écrans du cinéma Le France à Saint-Étienne, et une soirée également sera proposée autour de ce film. Ce sera le 24 novembre prochain, le dimanche 24 novembre à 18h30, en présence d'universitaires historiens. J'imagine que Jean-Michel Steiner sera de la partie. Soirée en partenariat avec le Mémorial de la Résistance et de la Déportation. Voilà le nouveau film de Gilles Perret, Les Jours Heureux, quand l'utopie des résistants devint réalité. Et puis, simplement pour d'autres rendez-vous en perspective et en lien avec le Grémos à nouveau, puisque ce projet-là a fait l'objet d'une émission ici même, dans le cadre de l'émission Grémos, d'ici et de là-bas, l'exposition Timsrit Saint-Étienne une mémoire de mineurs qui avait été installée donc sur le site par courrier du musée de la mine de Saint-Étienne. Une prochaine soirée est organisée autour de ce projet après l'expo. C'est un projet livre qui vient d'être réalisé et donc édité et qui sera présenté en parole certes, mais également en musique, en présence de Catherine Gauthier qui a coordonné et piloté aussi ce projet. Ce sera le 27 novembre prochain, le mercredi 27, dès 18h15, donc sur le site courrier, bien entendu, à l'occasion de la sortie de ce livre. Et puis simplement un tout dernier rendez-vous à vous rappeler et vous proposer, puisqu'il sera encore question des luttes ouvrières, mais pas seulement, mémoire de lutte des années 70-80. Transmission nécessaire pour les luttes d'aujourd'hui seront encore à l'honneur. Ce sera mi-décembre prochain, les 13, 14, 15 décembre, si je ne me trompe, sur le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche, avec là aussi un projet d'écriture d'ouvrage qui s'est mis en place sur Saint-Étienne, brochure sur les luttes de cette époque à Saint-Étienne et de sa région, ainsi qu'une exposition qui sera présentée de Marie-Claire Corda sur les années de plomb, et puis une soirée documentaire et de court-métrage au cinéma Le France le vendredi soir, et puis soirée concert et plus festive sur l'ensemble et restant du week-end. C'est dans le cadre du festival Quartier Libre, 4e édition, qui se déroulera à Saint-Étienne. On aura à nouveau l'occasion de vous rappeler tout cela sur l'antenne du 895 de Dio. Voilà pour les petits rendez-vous, petit agenda que je voulais rappeler. Portez-vous bien, tout bon chez vous, à très bientôt. Salut à tous et toutes.
Au revoir.